7h44 à Paris, tout de suite les principaux titres de l'actualité internationale.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Après les États-Unis, samedi, le Royaume-Uni a fait savoir hier qu'un lien avait été établi avec le Hayat Tahrir al-Sham, les islamistes qui mènent la coalition rebelle à Damas. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part annoncé vouloir fournir à titre humanitaire à la Syrie des céréales et d'autres produits agricoles. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a lui rencontré hier le chef du HTS, Abu Mohammed al-Joulani. La Syrie a à nouveau frappé hier par Israël. Des frappes de l'État hébreu ont visé dans la nuit de dimanche à lundi des sites militaires dans la région côtière de Tartous. Autre frappe menée par Israël et annoncée par la défense civile de Gaza. Différents endroits de l'enclave palestinienne ont été visés. Au moins 40 personnes sont mortes. Mayotte ravagée après le passage du cyclone Chido, c'était samedi. Les autorités redoutent des centaines, voire des milliers de morts. Les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer sont attendus en fin de matinée sur place. Un pont aérien et maritime a été organisée depuis l'île de la Réunion, territoire français distant de 1400 km pour envoyer du matériel et des personnels médicaux et de secours. La revue des journaux africains à présent. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, le processus de paix au point mort dans l'est de la RDC.
La réunion tripartite prévue à Luanda en Angola entre le président congolais Félix Tshisekedi, rwandais Paul Kagame et angolais João Lourenço. Cette réunion n'a pas eu lieu hier dimanche, constate le site congolais 7 sur 7. D'après la présidence congolaise, l'annulation de cette rencontre a été causée, pointe le site, par le refus de la délégation rwandaise de prendre part à la réunion. Et en effet, précise Beto, autre site congolais. Kigali a subitement conditionné sa présence et par conséquent la signature d'un éventuel accord à l'ouverture d'un dialogue direct entre Kinshasa et le groupe armé M23. Une exigence jugée inacceptable par Kinshasa qui y voit une manœuvre délibérée pour torpiller le processus de paix de Luanda. Pour sa part, le New Times à Kigali justifie l'absence de Kagame par les menaces de changement de régime proférées par les responsables congolais contre le Rwanda et la présence continue dans l'est de la RDC des FDLR, milice fondée par les restes des auteurs du génocide de 94 contre les Tutsis.
Bref, on en est toujours au même point dans ce conflit qui ravage l'est du Congo depuis plus de 25 ans.
Oui, l'échec de cette rencontre illustre le climat de méfiance profonde qui règne entre les deux parties, relève Afrique.com. Kigali exige des garanties fermes sur l'ouverture d'un dialogue avec le groupe rebelle M23. De son côté, Kinshasa insiste sur le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et l'arrêt du soutien aux rebelles. Ces désaccords rendent tout compromis difficilement envisageable. Avec l'annulation de ce sommet, les perspectives de paix dans l'est de la RDC s'assombrissent. L'échec de Luanda donne l'impression que les points d'achoppement entre le Congo et le Rwanda n'ont pas évolué, pointe pour sa part le site spécialisé sur la RDC Afrique Arabia. Kigali considère toujours la crise du M23 comme un problème congolo-congolais, à l'inverse de Kinshasa, qui pense que sans le Rwanda, le M23 est une coquille militaire vide. Le Rwanda défend l'idée que le nœud du conflit se trouve justement entre le M23, qui défend la communauté rwandophone, et les autorités congolaises. Pour Kinshasa, le refus de négocier avec la rébellion est directement lié aux multiples échecs du passé et aux nombreuses intégrations ratées de rebelles au sein de l'armée régulière qui ont systématiquement donné lieu à la création de nouvelles rébellions.
Et pendant ce temps, la guerre se poursuit donc avec son cortège de souffrances pour les populations civiles.
Témoin, ce reportage à lire dans Le Monde Afrique sur les centaines de milliers de personnes déplacées qui sont venues se réfugier aux environs de Goma, dans la province du Nord Kivu, pour se retrouver dans des camps où règne l'insécurité et la misère. L'ouest de Goma est le réceptacle des malheureux qui fuient les plateaux et vallées du Massissi et du Walikale, au-delà du versant occidental du volcan Nyiragongo, rapporte l'envoyé spécial du Monde Afrique. Les sites ont pour nom Bouimba, Mulengo, Rusayo, Luchaga, Rego. Partout, le même spectacle, une mer de bâches blanches. Combien sont-ils, ces hordes de déplacés? Au moins 600 000, d'après une évaluation effectuée à partir de photos aériennes par plusieurs ONG. Plus d'un million, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Nul ne sait précisément.
Au moins 600 000 personnes donc, qui ont besoin de nourriture et de protection.
Oui, dans le camp de Luachi par exemple, pointe Le Monde Afrique, c'est le programme alimentaire mondial, le PAM, qui nourrit les gens en partie débordés. L'agence onusienne subvient aux besoins de base de la majorité des ménages seulement, les autres tentent de survivre. Il y a aussi le problème de l'eau potable. Au bord du lac Kivu, MSF a installé 8 pompes qui tournent 24 heures sur 24, reliées à 24 cuves de 10 000 litres dispatchées dans des camions-citernes ou dans le réseau réseau de tuyaux qui court sur une dizaine de kilomètres, mais cela ne suffit pas. Enfin, l'insécurité permanente relève encore le Monde Afrique. Exemple, les femmes ont demandé qu'il n'y ait plus d'ampoules autour du bâtiment des latrines pour ne pas être vues la nuit. Les chiffres de violences sexuelles, en effet, principale forme de violence parmi les déplacés, sont effrayants. D'après une étude de MSF, plus de 10% des femmes adultes dans les camps de déplacés ont déclaré avoir été violées.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. La chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, nul doute que cet événement va avoir d'importantes répercussions à l'échelle régionale notamment. Et se pose désormais la question de l'avenir des bases russes présentes en Syrie. Dans ce contexte, la Libye pourrait-elle sortir son épingle du jeu et devenir cette nouvelle base arrière russe? Concrètement, que gagne le pays après ce changement de gouvernance en Syrie? Le grand spécialiste de la Libye, également chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, Wolfram Lascher, et notre invité Afrique ce matin, en ligne de Berlin, il répond à Christophe Boisbouvier.
Wolfram Lascher, bonjour.
Bonjour.
Si les Russes perdent leur point d'appui en Syrie, est-ce qu'ils ne vont pas se tourner encore plus vers la Libye du maréchal Haftar?
Ils vont sans doute l'essayer, mais est-ce qu'ils vont le pouvoir? Est-ce que Haftar permettra aux Russes de renforcer leur présence en Libye? C'est une question parce qu'on voit à travers les années dernières que Haftar a toujours cherché à jongler entre plusieurs partenaires étrangers et de ne jamais se rendre dépendant exclusivement d'un État.
Dans le territoire libyen contrôlé par le maréchal Haftar, les Russes auraient des facilités sur 4 bases aériennes, Al-Qadir, Al-Joufra, Gardabia et Brak al-Shati. Mais est-ce que les avions gros porteurs russes peuvent atteindre la Libye sans faire escale sur la route pour faire le plein?
Cela dépend sans doute des espaces aériens qu'ils peuvent traverser. Or, on a constaté cette dernière année qu'ils peuvent traverser l'espace aérien turc, par exemple. Mais c'est très possible si la Russie perdait la base aérienne en Syrie, que ça compliquerait la logistique, le ravitaillement pour la présence russe en Libye et plus au sud en Afrique.
Du côté des navires de combat maintenant, si les Russes perdent leur base navale de Tartous en Syrie, est-ce qu'ils pourront replier leurs bateaux dans un port libyen?
Alors, les Russes cherchent depuis plusieurs années déjà d'établir une base navale à l'est de la Libye. Pour l'instant, Haftar et ses fils n'ont jamais accédé à ces requêtes parce qu'ils savent que cela pourrait rompre leur relation avec les puissances occidentales. Or, la situation actuelle où et la Russie et les États-Unis et d'autres pays de la région, donc les Émirats, les Égyptiens, tout le monde essaye de maintenir des bonnes relations avec Haftar. C'est une situation très confortable pour Haftar. Et donc, je pense que pour Haftar, il n'y aurait aucune nécessité de maintenant offrir le territoire libyen aux Russes et de se rendre dépendant de manière exclusive du soutien russe et de couper ses relations avec les pays occidentaux.
Alors apparemment, le maréchal Haftar et Vladimir Poutine s'entendent bien. Ils se sont vus à Moscou en septembre dernier. Mais est-ce que le maréchal libyen est un allié aussi fiable que l'était le dictateur syrien Bachar el-Assad?
Il n'est peut-être pas fiable dans le sens où il suit les directions qu'on essaierait de lui donner. Mais Haftar a besoin de cette présence militaire russe parce que la fonction de protection contre d'éventuels attaques, d'éventuelles offensives de la part des forces tripolitaines, cette fonction de protection que a la présence militaire russe, c'est difficile de voir une autre puissance étrangère la remplacer pour Haftar. Donc c'est pour ça que la relation entre Haftar et la Russie est une relation qui est bénéfique mutuellement. Les deux ont besoin de maintenir cette relation.
Depuis 6 mois, le maréchal Haftar, qui est âgé de 81 ans, prépare sa succession. Il met en avant l'un de ses fils, Saddam. En juin dernier, quand Saddam Haftar est allé à N'Djamena, le président tchadien lui a demandé de mettre sous cloche les rebelles tchadiens du FACT, dont la dernière offensive en 2021 avait coûté la vie à Idriss Déby. Est-ce que vous pensez que le clan Haftar a donné suite à la requête du régime tchadien?
Oui, effectivement. Depuis environ 2 ans, il y a une coopération assez étroite. Il y a eu des arrestations de chefs rebelles, y compris au sein du FACT, qui ont été libérés livrée au régime tchadien. Et d'après ma connaissance, le FACT n'a plus de présence en tant que force en territoire libyen à ce moment-là.
Et le FACT aujourd'hui n'est plus en mesure de lancer une nouvelle offensive comme en avril 2021 ?
Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de force rebelle tchadien en territoire libyen qui soit en mesure de lancer une offensive semblable. Par contre, il faudra voir si, avec le fait que la France retire ses forces du Tchad, si ce n'est pas un facteur qui pourrait conduire à une nouvelle mobilisation de rebelles tchadiens qui pourraient donc organiser de nouveaux groupes, que ce soit au Darfour ou ailleurs dans les pays avoisinants du Tchad.
Wolfram Lascher, merci.
Wolfram Lascher, grand spécialiste de la Libye, chercheur à l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité. Entretien avec Christophe Boisbouvier, retrouvé sur le site d'RFI. Maman, votre carte postale du Gondwana, comme chaque matin sur RFI. Aujourd'hui, vous nous dites que la politique, c'est comme une prison.
Oui, quand on s'assoit au bord de la route pour laisser retomber la poussière en regardant passer les voitures, il apparaît évident que la politique et la prison, c'est même pipe, même tabac. D'abord, comme par hasard, politique et prison commencent par la même lettre P. Ensuite, on dit qu'on entre en politique comme on entre en prison, à la différence près que tu entres en politique pour faire un mandat ou plusieurs, alors que tu entres en prison à cause d'un mandat de dépôt. Tu entres en prison pour une durée déterminée par un juge et tu entres en politique également pour une durée déterminée par ton mandat électoral. Si tu récidives ou commets une autre bêtise, tu augmentes ton séjour en prison. En politique, c'est la même chose. Plus tu commets de bêtises, plus tu augmentes tes chances de durer en politique. Les ressemblances ne s'arrêtent pas là. En République de Mbengue, capitale Paris, quand tu regardes le paysage politique, il est comme une prison. Il est divisé en blocs. Au centre, tu as le bloc central. À gauche, tu as le bloc de gauche et à droite, le bloc de droite. Pour être plus précis, à droite, c'est le bloc du Rassemblement National. En prison, c'est le bloc des Hells Angels, le bloc des White Power. T'as déjà vu ça dans les films américains, tu sais exactement de quoi je parle. Le bloc du RN, c'est le bloc des gars qui monopolisent les appareils de musculation dans la cour de promenade de la prison. Personne ne doit s'en approcher, surtout si t'es un noir ou un arabe. Puis, à gauche, on a le bloc du NPF. En prison, c'est le bloc des rebelles, le bloc des insoumis. C'est là qu'on met tous les prisonniers qui n'obéissent pas au règlement, ceux qui sont punis. Ce bloc est aussi appelé le mitard, le trou, le cachot. Dans ce bloc des insoumis, les prisonniers sont toujours en train de protester, de taper sur les barreaux de leurs cellules. Parfois même, ils brûlent leurs matelas juste pour bordéliser la prison, comme disent ceux du bloc central. Et donc enfin, on a le bloc central. Comme son nom l'indique, il est au centre de la prison, c'est le palais. Toute la prison est dirigée depuis le bloc central. C'est là où l'on le boss de la prison, le patron des détenus et des gardiens. C'est dans sa cellule que se passent toutes les négociations. Le boss dirige l'extérieur depuis l'intérieur de sa prison dorée. Il décide tout. Il décide les horaires des promenades, le menu de la cantine, la dissolution. Il décide qui sera de corvée de chiottes, qui sera affecté à la bibliothèque, qui sera premier ministre, etc. Comme en prison, les familles ont le droit de visite. En politique, ça s'appelle les élections. Les électeurs viennent dans les parloirs qu'on appelle isoloirs, sous la surveillance des gardiens de prison qui, en politique, sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. La différence entre politique et prison, c'est que parfois, quand tu sors de l'une, la politique, c'est pour aller directement dans l'autre, la prison. À demain.
À demain, Maman. RFI Matin, vous restez avec nous. Dans deux minutes, le journal international de Gaëtan Plené.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
Ce lundi, sur RFI.
Comment se mettre dans la tête d'une araignée ?
Autour de la question, avec Caroline Lachowski.
Elles nous font peur et nous fascinent, habitent nos maisons et nos mythes. Mais qui sont vraiment les araignées ? Suivez le fil pour découvrir leur monde minuscule, leurs impressionnantes capacités cognitives et même leur vie sociale encore plus riche que leur toile.
Autour de la question avec Caroline Lachowski, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Du lundi au vendredi, retrouvez Adrien Delgrange pour un journal d'information internationale dédié à celles et ceux qui veulent comprendre l'actualité mondiale tout en perfectionnant leur français.
RFI, Radio France Internationale, bonjour à toutes et à tous. L'heure quotidienne de retrouver votre journal en français facile.
Après la diffusion, vous pouvez réécouter le journal avec sa transcription simultanée sur le site françaisfacile.fr.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI.
Vous portez un projet numérique favorisant l'accès universel à l'eau et à l'assainissement, la conservation et l'exploitation durable des mers et océans en Afrique francophone?
Participez à la 9e édition du concours Challenge APAfrique avec RFI et France 24 et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez dès aujourd'hui et jusqu'au 26 janvier 2025 sur appafrique.rfi.fr.